Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dose de France. Je suis Johan Colo, fondateur de la page Instagram Dose de France et du site internet demichelot.com dédié aux apéritifs et spiritueux français. Pour trouver des boissons de qualité, artisanales et traditionnelles, rendez-vous sur demichelot.com. Rappel nécessaire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver cette semaine. Alors cette semaine, je voulais vous parler, pardon, j'ai un bout de cookie coincé dans la gorge. Attendez, je vais boire un petit coup de water. Ça m'apprendra à faire le gros tas. Alors je voulais vous parler de base, j'en avais parlé dans le podcast de la semaine dernière, des raisons de la baisse de la consommation d'alcool en France. J'ai fait tout un petit dossier, j'ai travaillé pour choper des stats intéressantes. Même moi, j'ai découvert pas mal de trucs. Mais, je vous en parlerai plutôt la semaine prochaine, parce que, en fait, il s'avère que cette semaine, alors je ne sais plus quel jour c'était, puisque je fais pas mal de trucs dans mon emploi du temps, c'était... Pas pour me la raconter, hein, c'est... Lundi. Lundi, j'ai été invité par une école à Paris qui s'appelle l'EGE. Je crois que c'est pour l'école de... Voilà, j'ai leur tote bag sous les yeux. École de guerre économique. Bon, déjà, le nom pèse. C'est assez stylé. Quand il y a le mot guerre dans le nom de ton école, déjà, forcément, ça pèse. Et en fait, donc je suis intervenu devant une vingtaine, trentaine de personnes. Et on a parlé de l'économie dans le monde des spiritueux français. Et il m'avait posé des questions en avance pour que je prépare un petit peu, enfin que je sache de quoi on va parler. Et moi, j'en ai profité pareil pour aller chercher des petites stats intéressantes, des anecdotes cool. Et je me suis dit que bah, tant qu'à faire, quitte à avoir fait une conférence devant eux, puisque c'est 5 questions et après, moi, je blablatais... j'ai dû parler peut-être pendant 1 heure. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de réutiliser les cinq questions du gars qui a organisé la conférence, dédicace à lui, et les reprendre et en fait vous refaire la même et comme ça vous l'avez en accès illimité sur ce podcast. Donc de toute façon vous pouvez pas me répondre. Donc je vous annonce que c'est quand même le sujet d'aujourd'hui. Avant toute chose, un petit instant promo. Sachez que pour la fête des pères, alors je ne vais pas vous reparler des bouteilles, s'il y en a qui sont venus me voir en disant « Ouais, on écoute tous tes podcasts, du coup, toutes les semaines, on a le droit à 10 minutes de promo sur les maquisards qui sortent pour la fête des pères. » Non, là, c'est pas ça. C'est pour vous dire que, du coup, il y a les billets qui sont désormais en vente pour l'événement, un petit événement, une petite soirée pour la fête des pères. Alors, pour vous en parler brièvement, en gros, la maison Ferrand, donc qui fait le cognac Ferrand, le gin Citadel, le rhum Plantrait, et avec qui, du coup, je sors 2 bouteilles pour la fête des pères, ils ont une barge à Issy-les-Moulineaux, donc juste à côté de Paris, ceux qui habitent vers Paris doivent connaître. Et dans cette barge, dans la cale, en fait, il y a des fûts qui sont en vieillissement. Ils ont une autorisation, une dérogation pour le faire. Et donc, le vendredi 6 juin... que je dise pas de bêtises, le vendredi 6 juin, on organise en collab avec eux une petite soirée, toute basique, hein, de 18h30 à 21h. Voilà, c'est ça, vendredi 6 juin, 18h30, 21h. Et en fait, il y aura plusieurs activités. Donc, il y aura visite de la barge et du coup de la cale avec les fûts qui sont en vieillissement. Il y aura un petit cocktail, il y aura masterclass, donc explication sur la fabrication du gin, du rhum, du cognac, avec des dégustes. Et il y aura aussi du coup le gin que je fais avec eux en collab et le cognac que je fais avec eux en collab, en dégustation, en exclusivité sur la barge. Voilà, c'est une petite soirée, on pourra passer 2 heures ensemble, 2 heures, 2 heures et demie. Et en plus, c'est des places qui sont très très limitées, puisque bah, une barge, c'est pas très grand, et ils ont une capacité maximum dessus. Donc il y a 20 places en vente pour 15 € la place, tout en sachant que comme c'est pour la fête des pères, si vous venez avec votre père, et bah, c'est gratuit pour lui. Du coup, si vous venez à deux, vous et votre père, eh ben c'est 15 euros pour deux. Et avec ça, vous avez du coup toutes ces petites animations. Pourquoi c'est payant? Bon, déjà parce qu'il y a de la presta et qu'eux vont mobiliser des salariés. Donc voilà. Et aussi, en fait, c'est au fur et à mesure que je fais des événements, ben on se rend compte que quand c'est gratuit, ouais, il y a plein de gens qui s'inscrivent. Mais en fait, le jour J, on ne sait pas trop si les gens vont venir ou pas. Parce que quand c'est gratuit, on s'inscrit, mais après on se dit, ah bon, en fait, flemme, en fait, j'ai autre chose, machin. Alors que quand c'est payant, bah, on laisse vraiment pile le bon nombre de places. Donc là, il y en a 20, 20 payantes en tout cas. Et donc ça fera 40 personnes maximum si tout le monde vient avec son père. Mais au moins, on est sûr que bah, ceux qui ont payé ne serait-ce que 5, 10, 15 euros, et bah, donc là, en l'occurrence 15, et bah, ils viennent. Voilà. Donc on sait, nous, on peut s'organiser en avance, on sait combien de personnes viendront. Donc, si vous voulez faire un cadeau un petit peu rigolo, un peu sympa à votre père et que vous habitez dans le coin, n'hésitez pas, il y a seulement 20 places. Pour ceux qui écoutent ce podcast aujourd'hui, jeudi 15 mai, je vous les laisse en avant-première en exclu. Donc, vous m'envoyez un DM si vous êtes intéressé sur Dose de France, vous m'envoyez un message privé et moi, je vous enverrai le lien de la billetterie. À partir de vendredi 16 mai, je le mets en accès à tout le monde sur Instagram. Donc, c'est un petit peu une récompense pour ceux qui écoutent ce podcast et qui veulent participer à un événement, vous les avez en avant-première si vous me contactez ce soir. Voilà, je sais qu'il y a directement 100-200 personnes qui l'écoutent tout de suite, donc si vous êtes dans le coin et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Voilà. Bon, je vous propose du coup de commencer par la première question. Hein. Commençons par le commencement, comme dirait l'autre. Alors, c'est cinq questions du coup que l'organisateur de la conférence à l'EGE m'a posées. C'est pas moi qui les ai faites. Et moi, bah, j'ai cherché les réponses entre ce que je savais déjà et les recherches un peu le plus poussées que j'ai fait. Et ce qui est marrant, c'est pour ça que je voulais aussi vous en parler aujourd'hui, c'est que ça vient aussi déstabiliser certaines idées reçues qu'on peut avoir sur le marché de l'alcool. Donc, sa première question, c'est: quels sont les impacts des politiques commerciales américaines sur la filière des spiritueux français, et uniquement français, et uniquement des spiritueux? Alors ça a fait un peu écho au podcast que j'avais fait au moment où Donald Trump voulait mettre 200% de taxes sur les vins et spiritueux français, que j'avais nommé Donald joue à qui a la plus grosse. Bon, il s'avère que depuis la situation a évolué puisque les 200% de taxes ne sont pas passés. Donc, ils vont continuer à boire du champagne français et pas du champagne américain. C'est pour ça que les Américains ne respectent pas l'appellation champagne. Du coup, on peut boire du champagne américain. Les 30% ou 35% qu'il avait promis aussi, finalement, sont reportés. Et donc, en ce moment, il me semble qu'aux dernières nouvelles, parce que c'est un peu compliqué à suivre, on est à 10%. En plus, je vous avoue que je ne suis pas vraiment, puisque comme moi, j'exporte pas aux États-Unis, bah, ça m'impacte moins. Donc, je suis ça de un petit peu plus loin. Donc, en ce qui concerne les politiques américaines, si jamais ils venaient à mettre des grosses taxes ou le simple fait de menacer, puis retirer, puis dire qu'on va attendre, ce qui crée du coup de. Ça rend le truc vachement imprévisible, donc ça nuit quand même au business, puisque on sait pas trop à quoi s'en tenir et on a du mal à se projeter. Et pour pouvoir faire du business en paix, bah, il faut de la paix et il faut aussi de la sérénité, de la capacité de projection. Donc ça vient mettre un petit peu le brouillard, ce qui fout le bordel dans les relations commerciales. Le premier constat à faire, c'est que dans les vins et spiritueux, les États-Unis, ils représentent 25% des exportations, ce qui est stratosphérique. En gros, une bouteille sur quatre d'alcool, vin spiritueux de France qui est fabriqué et exporté, pas juste fabriqué et exporté. Une sur quatre va aux États-Unis. Donc c'est un partenaire commercial gigantesque. Et donc ça fout vraiment le bordel, les potentiels tarifs, droits de douane, qui viendraient augmenter. Alors après, je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le détail côté spiritueux. Ah oui, et je précise aussi que les vins et spiritueux, ça fait partie du troisième marché d'export. Pour notre balance commerciale, la France, je crois que c'est derrière les armes et la cosmétique. Donc, non seulement ils représentent une énorme part, mais ils représentent une énorme part d'un truc qui est déjà gigantesque. Donc, ça vient vraiment faire très très mal à la France. C'est pas juste anecdotique. Mais rentrons quand même dans le détail. Je suis allé chercher des chiffres un peu partout pour savoir qui allait avoir mal, en tout cas dans les spiritueux. Alors on va faire du moins pire jusqu'au pire, disons cela. Je suis allé chercher dans les rhums, les liqueurs, savoir si on en exportait pas mal aux États-Unis. Alors ils boivent beaucoup de chartreuse, mais en volume, comparé à d'autres alcools, ça reste vraiment dérisoire. Les rhums français, c'est un non-événement, ça n'existe pas. Pas ou quasiment pas aux États-Unis. Ils boivent surtout du rhum venu des anciennes colonies espagnoles et britanniques. Et ou le leur, tout simplement, parce qu'il faut savoir que dans le sud des États-Unis, il y a des États qui fabriquent du rhum, parce qu'ils peuvent faire pousser de la canne à sucre, tout simplement. Et où ils peuvent fabriquer de la mélasse aussi. Et donc les Américains ne consomment pas le nôtre. Comme ils ne consomment pas notre whisky, parce qu'ils en font déjà suffisamment eux, puis ils consomment beaucoup de whisky écossais aussi. Nouvel alcool, donc le Calvados. Aux dernières nouvelles, les Américains représentaient seulement 2,5% de la consommation de Calvados dans le monde. Il y a plus de 50%, c'est la France directement. Et après, je crois, genre, il y a 20%, c'est l'Allemagne. Et après, tout le reste, c'est des genre 5-6%. Donc en fait, ceux qui boivent du Calvados, c'est les Français et les Allemands. Donc en soi, pour le Calvados, c'est pas très grave non plus. L'Armagnac, c'est 10%. Donc pareil, c'est un tout petit. Enfin, c'est quand même un beaucoup plus gros marché du coup, tout de suite. C'est 4 fois plus gros que pour le Calva en pourcentage. Mais disons que c'est pas très grave. En fait, quand je dis que c'est pas très grave, ce sera pas très grave pour le volume général des appellations. Ça sera chiant pour certaines distilleries, parce qu'à mon avis, pour certaines distilleries, si elles ont un gros client là-bas, ça doit représenter beaucoup plus que 10% ou 2,5% pour le Calvados. Mais en tout cas, pour l'appellation au global, ou l'alcool au global, c'est pas non plus très grave. Mais après, vient le gros morceau. Et là, le gros morceau, c'est le cognac. Parce que le cognac, c'est 98% d'export. Les Français, selon l'année, boivent entre 1 et 3% de la production de cognac. Donc on va dire 98%, on peut même dire 100% d'export pour arrondir et calculer plus facilement. Et sur tout cet export, 50% va aux États-Unis, ce qui est gigantesque. Les Américains boivent une putain de bouteille sur deux de cognac produite. Ce qui fait que si tu peux plus exporter aux États-Unis, bah là, l'appellation cognac, là, ça va souffrir. Je crois que c'est plus d'un milliard. Je sais pas pourquoi je m'étais noté 1 milliard d'euros par an. Voilà, c'est colossal. Et du coup, là, c'est un vrai problème. Donc, le comportement, les relations, enfin, les politiques commerciales américaines posent problème au secteur des vins spiritueux, puisqu'ils consomment une bouteille sur quatre qui est exportée. Mais en fait, dans les spiritueux, ils posent surtout problème au cognac, en fait. Et le cognac, dans la continuité, cognac, c'est vraiment deux régions, deux départements qui en vivent complètement, donc la Charente et la Charente-Maritime, avec les emplois directs et indirects. Ça, je l'avais dit dans mon précédent podcast, on est à plus de 70 000 personnes qui en dépendent. Donc, dans la continuité de relations commerciales tendues, ça fait 70 000 personnes qui ont un emploi qui peut être menacé ou qui est fortement menacé. Et tu as même des zones dans ces départements-là où il y a plus de 30% des habitants qui travaillent du cognac, enfin, qui dépendent de l'activité du cognac. Donc, ce serait vraiment cataclysmique pour deux départements français. Et un type d'alcool, enfin, une appellation qu'est le cognac. Donc, en résumé, les politiques commerciales dans les spiritueux ne touchent vraiment qu'une seule appellation, mais qui produit des volumes colossaux. C'est pour ça que ce cognac, à lui tout seul, ça produit plus que l'Armagnac et le Calvados réunis, même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ce qui fait que, en termes d'argent pour nous, la France, c'est quand même compliqué. Donc à voir comment ça évolue. Pour l'instant, ça va. On sait que des boîtes comme LVMH avec Hennessy ont envoyé plus d'un an de stock là-bas. Donc ils ont un an d'avance au cas où il y a des droits de douane qui explosent. Et sachant que la plupart du cognac qui est vendu aux États-Unis, en fait, c'est Hennessy. Donc on est sûr que pendant au moins un an, ça devrait aller en termes de business. Mais voilà. La question, il se posait la question au vu des relations tendues eu égard aux tarifs posés par Donald Trump et ses manières de négocier avec nous qui sont légèrement radicales, brutales. Après, bon, lui, on n'est pas là pour parler politique, mais lui, il joue ses intérêts et nous, on essaye de défendre les nôtres. Enfin, je ne sais pas si on les a défendus, mais en tout cas, il a retiré les droits de douane, donc pour l'instant, ça va. En tout cas, ça nous fait prendre conscience que on ne peut pas dépendre autant des États-Unis pour exporter nos vins et spiritueux. Le revers de la médaille, c'est que si on exporte autant, c'est que déjà, ils nous aiment bien, donc c'est un peu compliqué de trouver autant de nouveaux clients ailleurs dans le monde, et c'est surtout des clients qui ont de l'argent. Parce que non seulement ils consomment beaucoup en quantité, mais je pense qu'en valeur, ça représente aussi beaucoup, parce que les Américains sont très riches, ils sont en moyenne 2 fois plus riches que nous, enfin gagnent en moyenne 2 fois plus que nous. Donc non seulement on leur vend beaucoup, mais en plus on leur vend bien. Ce qui représente quand même un double problème. C'est pour ça que la France, notamment le cognac, devrait commencer à regarder un petit peu plus vers son marché intérieur, qu'est la France, du coup. Mais est-ce que les Français seraient capables d'acheter du cognac? Bon, au prix auquel ça vaut aujourd'hui, franchement, on pourrait. Faudrait que l'appellation fasse les efforts de faire du marketing vers nous, parce qu'ils les ont totalement délaissés. S'ils avaient les deux Eldorado, à l'est la Chine, à l'ouest les États-Unis qui achetaient tout, et ils se sont dit, bon, en fait, on s'en bat les couilles des Français, on n'a plus besoin d'eux. Il y a quasiment pas de spiritourisme à part dans les grandes maisons. Donc, en fait, le fait de pouvoir visiter les distilleries et découvrir le cognac, la plupart des Français savent même pas ce que c'est, savent pas comment c'est fabriqué. Ça, c'est de la faute de l'appellation, hein. Ils avaient qu'à faire une éducation sur le grand public et ils auraient des clients dans le marché intérieur et ils s'exposeraient beaucoup, beaucoup moins aux tensions internationales. Enfin, exporter 98% de ce que tu produis, c'est quand même colossal, quoi. T'es entièrement dépendant des tensions internationales. Si la moindre grippe dans la machine, c'est chaud, quoi. Bon, pour l'instant, ils ont toujours passé ça relativement tranquillement. Mais voilà, le Donald Trump vient faire un rappel que tout ça n'est pas forcément éternel. Alors, deuxième question, qui est longue. Comment percevez-vous le cadre réglementaire français? Est-ce davantage un frein ou un garde-fou pour la filière des spiritueux? Lourdeur administrative, loi Evin, délivrance de licence 4, où se situe la frontière entre la protection du consommateur et l'étouffement des producteurs? Alors, je pense que là, ma réponse va vous surprendre. Alors, voyons d'abord les freins. Donc, dans le milieu de l'alcool, le premier frein, c'est qu'il y a de fortes taxes. Parce que nous, on paye trois taxes différentes qui sont 1, les douanes, qu'on appelle les accises. 2, on paye de la sécurité sociale. Donc ça, c'est deux taxes qui sont, entre guillemets, fusionnées. Et par-dessus, donc, on a tout notre prix, donc les coûts fixes, les coûts de fabrication, les coûts de production, en gros, les taxes, la marge. Donc ça nous donne un prix. Et ensuite, donc ça, c'est le prix hors taxe. Et ensuite, on rajoute. Enfin, hors taxe, dans notre langage, enfin bref, il y a les coûts de production, les taxes douane et sécurité sociale, et la marge. Et ensuite, on vient rajouter la TVA, qui pour l'alcool est à 20% en France. Et donc, on a de la taxe sur la taxe, ce qui est merveilleux. Alors, la contrepartie, enfin, pour plutôt venir apporter un. Comment dire ça? Plutôt, enfin, éviter le French bashing, en gros, et éviter de juste se plaindre et apporter la contradiction sur ce qu'on pourrait imaginer. Tous les pays du monde taxent globalement assez fortement l'alcool et le réglementent assez fortement. J'ai remarqué qu'il y a quand même un vrai écart entre les États-Unis, enfin certains États des États-Unis, l'Allemagne, surtout l'Allemagne, qui taxent beaucoup moins que nous, 2 fois moins à peu près, et qui a une TVA inférieure, s'ils ont une TVA à 19%, alors que nous, elle est à 20%. Bon, 1%, on peut se dire que c'est pas grand-chose, mais à la longue, ça fait quand même beaucoup. Par contre, quand on regarde la moyenne des TVA sur l'alcool en Europe, et ben, elle tourne entre 19 et 25, et j'ai vu beaucoup de pays où c'est des 22, 23, 24, 25. Et nous, on est à 20, donc on fait partie des plus bas. On est 1,5 fois moins taxé que le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, on comprend l'Écosse qui produit quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de whisky. Et le Royaume-Uni est du coup beaucoup plus taxé que nous, ce qui est quand même incroyable. Et on est aussi légèrement moins taxé que la Suisse, par exemple. Donc, quand on regarde tout dans son contexte, en fait, globalement, j'ai remarqué que sur l'alcool, on est plutôt au milieu. Voilà, on est fortement taxé, mais tous les pays du monde taxent assez fortement le domaine de l'alcool. Bah déjà parce que ça ramène beaucoup d'argent, deux parce que ça cause, on va pas se mentir, ça cause des problèmes de santé, parfois de sécurité, des dégâts sur la route. Enfin, bref, voilà. Vous avez compris pourquoi. C'est, si jamais l'alcool coûte 5 euros, ça peut vite devenir le bordel. Après, tu me diras, il y a des bouteilles de vin que tu peux trouver à 2 euros, 2 euros 50. Hein. Mais bon, si tous les alcools du monde, surtout les alcools forts, coûtaient vraiment pas cher, bah ça pourrait quand même. Enfin, la consommation, à mon avis, serait un peu plus élevée. Alors ça, on verra plus tard. Enfin, ou on verra la semaine prochaine dans pourquoi la consommation d'alcool baisse, parce que j'ai fait enfin, j'ai fait des rappels sur les mesures qu'avait pris l'État et la baisse de la consommation. Ensuite, nous, bah, on a la loi E20, comme dans la question. Donc, la loi E20, globalement, ça encadre la publicité sur le tabac et l'alcool. C'est ce qui fait qu'on n'a pas le droit de faire de pub à la télé, à la radio, qu'on a des conditions sur la présentation des pubs, qu'on doit mettre la mention « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ». C'est pour ça que je le dis au début, c'est pour la loi E20. C'est pour ça que quand vous voyez, vous faites gaffe là en ce moment, comme les beaux jours reviennent, Ricard, ils font de la pub dans les abribus. Bah, vous voyez les personnes sur les pubs Ricard, elles tirent des gueules d'enterrement parce qu'en fait, la loi E20, qui est assez subjective, interdit d'associer alcool et convivialité. Donc en fait, t'as pas le droit de sourire parce que si tu souris, t'es convivial. Et comme c'est une pub pour l'alcool, eh bah, sanction. Donc ça peut être assez pervers, ça peut aller assez loin puisque il y a beaucoup de règles qui sont subjectives. C'est-à-dire que si vous êtes une jolie femme en robe de soirée, bah, on peut trouver que c'est un petit peu trop attirant, que vous insistez à la fête parce que vous avez une robe de soirée et que vous posez des standards d'élégance et de luxe parce que vous êtes jolie, bien apprêtée, etc. Voilà. Donc ça incite à boire du champagne. En gros, si ils ont envie de vous exploser et de vous racketter de l'oseille, ils peuvent le faire quoi. Bon, après, il faut faire attention, on connaît la règle. Globalement, c'est très enfin, c'est assez flou, mais on peut quand même s'en sortir. Mais voilà, ça, c'est une loi qui est assez unique au monde, qu'on a en France. Il y a beaucoup de pays où c'est quand même assez strict. Par exemple, j'ai vu qu'en Suisse, c'était aussi très, très strict. C'est un petit peu plus souple en Royaume-Uni, aux USA. Par exemple, aux USA, vous avez le droit d'avoir des ambassadeurs de marque. Donc, vous avez le droit de foutre votre bouteille dans la main d'un rappeur et puis en parler tout le temps. Et par exemple, en Allemagne, où déjà vous êtes moins taxé, bah, c'est aussi beaucoup plus libre. J'ai cru comprendre que pouvait y avoir des pubs au cinéma après 18h, des pubs à la télé aussi, peut-être. Je sais plus, je me le suis plus noté, mais j'avais lu ça. Pareil, après 18h, il faut que ça soit pas montré aux mineurs ou qu'il y ait des messages de prévention pour les mineurs. Pareil au Japon, il y a le droit d'avoir des pubs et de la sponsorisation possible. Donc globalement, nous, là-dessus, on est quand même assez restrictif. Donc on est fortement taxé et tu as moyennement le droit de parler du produit que tu veux vendre. Donc ça, le truc devient un petit peu technique. Après, la comparaison avec les États-Unis, elle se fait régulièrement. Je peux vous donner un exemple aux États-Unis. Il y a 34 États aux États-Unis, donc sur 50, qui comportent, enfin qui contiennent des dry county, des dry county, en gros des États secs, donc des États où la vente d'alcool est interdite et parfois même interdite dans des bars et restaurants. Donc c'est un petit peu compliqué. On peut prendre des exemples, hein. Par exemple dans l'Arkansas, vous avez un comté sur deux qui est un dry county. Dans le Texas, vous en avez 20% et vous montez jusqu'à 85% des comtés au Texas qui ont des lois très restrictives, genre sur la vente à emporter, sur la vente sur place, qui conditionnent la vente sur place d'alcool à un certain pourcentage de chiffre d'affaires sur la nourriture. Donc vous devez vendre genre 70% ou 80% de votre chiffre d'affaires, je crois que c'est 70, ça doit être de la nourriture. Et dans ce cas-là, vous aurez le droit de vendre de l'alcool. Dans le Tennessee, il y a aussi beaucoup de dry county, notamment le comté où il y a la distillerie Jack Daniel, qui est une gigantesque distillerie. Donc, vous n'avez pas le droit de vendre d'alcool dans le comté où il y a Jack Daniel. Donc, Jack Daniel, ils ont une espèce de dérogation qui est juste de l'hypocrisie, où ils vendent des souvenirs ou je sais plus quoi là. Mais vous n'avez pas le droit techniquement de vendre de l'alcool dans le comté où il y a la distillerie Jack Daniel. Dans le Kentucky, vous avez 10% des comtés qui sont totalement dry, et vous montez à 100% de l'État qui a des restrictions spécifiques, alors que dans l'État du Kentucky, vous avez la plus grosse distillerie du pays, et vous avez la cinquième plus grosse distillerie au monde. C'est quand même... L'État est un petit peu anti-alcool, et la cinquième plus grosse distillerie du monde. Donc voilà, c'est pour vous montrer que en France, on a peut-être des restrictions sur la publicité, mais selon le pays où vous vous retrouvez, alors c'est plus ou moins facile, mais quand vous fouillez, bah, en fait, ça dépend vraiment où vous êtes, quoi. Visiblement, je peux comprendre que le plus gros laxisme, c'était l'Allemagne, en tout cas dans les gros pays, quoi. Parce que j'ai surtout voulu comparer avec Royaume-Uni, Japon, Allemagne, Suisse, États-Unis, Canada, etc. Et pour reprendre, par exemple, dans les pays du Nord, où dans le Canada, vous avez le Québec, qui a une situation particulière, la Suède, la Norvège, je crois aussi, où c'est des monopoles d'État, là, carrément. Donc c'est que l'État qui a le droit de vendre de l'alcool. Alors visiblement, la raison, c'est que là-bas, les nuits sont très longues parce qu'ils sont très au nord. Et donc ça cause... Il y a beaucoup plus de dépressifs ou je sais pas quoi, parce qu'ils manquent de vitamine D. Donc les mecs ont plus tendance à être dépressifs, donc poivrons. Alors... Pour pallier à ça, l'État a décidé de faire un monopole d'État et il s'arrange aussi pour mettre des taxes stratosphériques sur l'alcool parce que, bah, tant qu'à faire, si c'est un monopole d'État, autant qu'il se gave. Et vous verriez comment c'est géré. Chaque État, chaque pays où l'alcool est un monopole d'État, c'est un calvaire de paperasserie pour envoyer de l'alcool. Mais c'est. En fait, dès que c'est pas géré par le privé, ça devient galère. Donc voilà, en soi, on pourrait se plaindre en disant la loi Evin c'est relou, mais bah, il y a des pays où j'ai envie de te dire c'est encore plus galère. Après, dans leur question, ils parlaient de la licence 4. Alors, la licence 4, certes, elles ont beaucoup diminué, je crois qu'elles sont passées de 200 000 à 40 000. Je sais plus si c'est juste les bistrots, cafés ou si c'est la globalité des licences 4. En 80 ans, en gros. Mais pour le milieu des spiritueux, bah, ça n'a pas forcément fait baisser la consommation. Donc, ouais, il y a beaucoup moins d'endroits qui ont le droit de vendre des alcools forts, mais visiblement, ça n'a pas forcément eu d'impact sur la consommation de spiritueux. Donc, bah, mon avis est plutôt mitigé à ce sujet-là. Et je dirais du coup que. Le vrai problème, en fait, c'est l'administration et les taxes, mais au niveau global de la France, pas juste sur Montmieu, parce que Montmieu, je peux pas vraiment me plaindre, parce que j'ai envie de te dire, peu importe où je bouge dans le monde, ça sera la galère. Donc en fait, je peux m'en plaindre, mais au niveau national, parce qu'en France, bah, on a une fiscalité qui est extrêmement agressive, extrêmement violente, confiscatoire, on peut le dire, ce qui fait que bah, c'est les Français qui gagnent moins d'argent que ce qu'ils devraient gagner si l'État leur en laissait un peu plus. Parce qu'il faut savoir, hein, quand vous recevez votre salaire, l'État il a déjà pris 50%. Et après, dans tout ce que vous allez acheter, il va y avoir de la TVA. Donc vous pouvez retirer. Alors il y a de la TVA à 5, 5, 10 et 20, mais on va en gros vous retirer 10 de moyenne si vous voulez. Donc sur ce que vous touchez, bah, je sais pas si vous touchez 1 500, bah, faut savoir qu'il y a 1 500. Enfin, allez, on va dire 2 000. Il y a 2 000 qui est parti à l'État quasiment. Sur les 2 000, vous retirez 10% qui repart à l'État. Vous payez les impôts locaux, la taxe foncière, taxe d'habitation. Vous payez la taxe des ordures ménagères. Vous payez la TVA. Donc en fait, il y a 60%, vous l'avez plus. En moyenne, 60% c'est par l'État. 60 à 70 selon combien vous gagnez. Donc le vrai problème, c'est que bah, si les Français étaient plus riches, bah, c'est-à-dire que je pourrais avoir plus de clients et qu'hésiteraient moins à l'achat parce que mes produits valent cher. parce qu'il y a beaucoup de taxes. Donc, moi, ce qui m'arrange, ça serait que la fiscalité générale baisse pour que mes clients soient plus riches et puissent acheter plus facilement et donc nous faire plus de volume sur des jolies bouteilles et que ce ne soit pas les, les bouteilles de bas de rayon faites par des industriels qui soient préférées parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Donc, si je pouvais me plaindre de la fiscalité de l'administration, ce serait pour la globalité du pays, pas juste pour mon secteur, en fait. Je pense que ça fait sens. Après, il y a des contreparties à la loi E20 qui fait que du coup, ça nous protège contre, disons, les énormes entreprises extérieures. Et encore, c'est à moitié vrai, mais parce que certaines arrivent, veulent foutre des budgets marketing colossaux et se rendent compte qu'en fait, ça ne sera pas aussi facile que ça parce qu'il y a plein de règles hyper chiantes et bloquantes. Donc, il y en a qui choisissent bah, soit de ne pas venir, soit de venir, mais ils sont beaucoup plus discrets que ce qu'ils auraient voulu être. Puis il y a une protection bah, des mineurs qui est quand même assez renforcée, qui pense à la santé globale de la population. Et normalement, une population en bonne santé, eh bah, ça devrait se développer, s'enrichir, etc., etc. Si on ne leur prenait pas 60%, bien évidemment. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette question. Je la relis hein, dans ma tête pour voir si j'ai pas oublié des trucs. Où se situe la frontière entre protection du consommateur et étouffement des producteurs ? Bah, du coup, les producteurs, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est étouffé ? Oui, c'est quand même chiant. Il y a beaucoup de règles. On a deux comptabilités différentes pour la comptabilité pour les taxes de l'alcool et la comptabilité classique. Donc, on a plein de lourdeurs administratives et tout. Mais globalement, on peut assez bien en vivre, quoi. Ou en vivre... Enfin bref, c'est un milieu avec beaucoup de concurrence, donc il y en a qui n'en vivent pas forcément, mais on peut faire son trou, si vous voulez. Mais, encore une fois, si les clients avaient plus d'oseille, on pourrait encore plus facilement faire notre trou. Je pourrais fracasser l'État français par plaisir. Si j'étais Airbus, je serais énervé. Mais, là, si je déménage dans un autre pays, bah, je retrouverais beaucoup de contraintes administratives et beaucoup de taxes. Donc, en soi, moi, dans ma position, c'est un peu compliqué de juste gueuler pour gueuler et se faire plaisir. Voilà. Alors, la troisième question. Quel est le juste milieu entre préservation des traditions et innovation ? Comparaison de la France et les États-Unis. Les États-Unis testent, échouent et réinventent. En France... L'histoire et la réglementation freinent parfois l'agilité. Alors j'ai senti dans ces questions qu'ils voulaient prendre les États-Unis comme exemple pour taper un peu sur la France. Alors, encore une fois, dans le milieu de l'alcool, il y a plein de milieux où je suis assez d'accord. Dans le milieu de l'alcool, on a quand même un terroir assez inégalé et en plus on l'exploite, hein, on l'utilise bien. Moi, personnellement, j'avais fait un espèce de tableau où je référençais les différents types d'alcool, les appellations, même les recettes uniques. Par exemple, Chartreuse, bah, c'est une recette unique, donc je le référençais dedans. J'avais trouvé 250 variétés d'alcool et apéritifs différents dans mon référencement, mais je le sous-estime largement. Je pense qu'on doit être à plusieurs milliers, 2-3 000 facilement, à mon avis. Ce qui fait quand même une variété d'alcool, de spiritueux et d'apéritifs quand même assez conséquente. La preuve en est, et puis nous on est friands aussi des trucs un peu exotiques avec de lait, enfin exotiques, des expériences quoi. On a toujours envie de tester, créer de nouvelles choses, utiliser différentes plantes, différents fruits, enfin des différents types de vieillissement. La France est très connue pour ça dans le marché de l'alcool. Il y a des énormes sociétés qui font des éditions limitées juste pour le marché français parce qu'ils savent que ça plaira chez nous. Moi j'ai vu des marques de rhum qui ont 3 ou 4 références seulement et qui vendent ça dans le monde entier, et bah on leur a un peu imposé de faire des éditions limitées pour la France s'ils voulaient pénétrer le marché, parce que sinon en fait on s'en tape quoi. Donc le marché français est quand même assez connu pour, dans le milieu de l'alcool en tout cas, avoir les qualités que l'organisateur de la conférence donnait aux États-Unis, c'est-à-dire de faire beaucoup de tests, d'échouer, de se réinventer, etc., pour toujours avoir de la nouveauté, de l'édition limitée, des nouveaux types d'alcool, des vins aromatisés, etc., etc. Donc je dirais que pour certains secteurs, c'est assez vrai, on est peut-être assez immobilisé par l'histoire, les réglementations et tout. Dans le milieu de l'alcool, on est quand même assez dynamique. Il y a des catégories qui sont quand même très enfermées, hein, pour reprendre le cognac. Le cahier des charges pour le cognac, est gigantesque, ce qui fait que bah, ça protège assez bien l'appellation, mais ça immobilise complètement les... ça bloque toute innovation possible, se déconsort légèrement du cadre. Et bah, on n'a plus le droit d'appeler ça cognac. Et alors là, c'est pas au niveau de l'État qu'il faut s'en prendre, hein, c'est de l'appellation cognac elle-même. Je peux vous donner un exemple, pas pour le cognac, mais pour le Pinot des Charentes. Bah, le Pinot des Charentes, qui est en baisse quasiment dans le monde entier, si ce n'est dans le monde entier, je me souviens plus, on me l'avait dit. C'est-à-dire que le Pinot des Charentes, qui est un apéritif traditionnel qui est fait au même endroit que cognac, le truc est en train de crever. Le monde entier en boit de moins en moins chaque année. Et par exemple, dans la réglementation, moi, je voulais en vendre, enfin, je vais en vendre, je vais distribuer du Pinot des Charentes bientôt, là, j'attends juste que les douanes me filent l'autorisation. Et bah, je voulais faire des bibs, donc des poches de 5 litres pour pouvoir recharger des bouteilles et tout pour des clients restaurateurs. Et bah, c'est interdit que le Pinot des Charentes touche une autre matière que le verre. Voilà. Donc, il y a des réglementations à la con comme ça dans des appellations qui sont en train de crever, qu'il faudrait pour moi faire sauter, mais du coup, c'est l'organisation de l'appellation et c'est pas l'État. Donc là, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu, encore une fois, compliqué de taper sur l'État français alors que bah, c'est pas lui qui a mis ces réglementations en place. Et par exemple, pour comparer du coup avec les États-Unis sur les tests et les innovations, dans le monde de l'alcool, bah, les États-Unis, ils boivent beaucoup de whisky, alors sous différents aspects, hein, single malt, whisky de seigle, du bourbon, etc. Mais bah, sur l'étendue de leur pays, ils n'ont pas des diversités d'alcool colossales, quoi. Ils importent beaucoup de tequila mezcal du Mexique, ils importent beaucoup d'alcool français, comme on l'a vu. Eux, ils font du whisky. Mais après, enfin, nous, la trousse Pinette, qui est du vin d'épines, l'alcool de noix, de l'alcool de tout type de plantes, de tout type de fruits, des mix entre du cognac et de la Mirabelle. Il y a 8 milliards de variétés de menthe différentes. Bah ça, eux, ils n'ont pas. Alors que je suis sûr qu'ils pourraient faire pas mal de choses. Hein, vu l'étendue de leur pays, à mon avis, il y a quand même une variété de terroirs colossale. Donc dans le milieu de l'alcool, en fait, on est vachement innovant, vachement dynamique, et je ne suis pas sûr que beaucoup de pays le soient tout autant que nous. Donc moi, en tant que mec plutôt libéral, j'aimerais quand même une plus grande souplesse administrative avec des facilités fiscales, et surtout, enfin surtout pour mes clients. Mais on est dans un secteur qui est extrêmement particulier, et en plus dans le nôtre, bah, on est plutôt dynamique. Donc là, encore une fois, je me suis retenu de leur faire plaisir et j'ai pas fracassé l'État français. Alors avant-dernière question, parce que je vois que ça fait déjà 40 minutes. Encore une fois, quand je parle tout seul, je me rends pas compte de si ce que je dis est intelligible, s'il y a un bon fil rouge et tout. Alors j'ai de plus en plus de remarques et j'ai jamais eu de remarques de style on comprend rien, tu vas dans tous les sens. Donc voilà, j'espère, et puis que ça soit un petit peu intéressant, parce que là c'est moins rigolade et plus de chiffres, mais au moins comme ça vous comprenez bien le monde de l'alcool. Je trouvais que ces questions étaient intéressantes, pertinentes, et ça permet de se faire une vue d'ensemble. Alors, quatrième et avant-dernière question, comment la grande distribution et les industriels influencent-ils le marché des spiritueux en France? Quelle place devrait-il avoir? Alors, la place qu'il devrait avoir, ça je sais pas parce que... Bah parce que c'est pas à moi de déterminer. Par contre, comment la grande distribution et les industriels influencent-ils le marché des spiritueux en France? Alors, je pense que c'est deux choses différentes, parce que vraiment le nerf de la guerre dans les spiritueux, c'est la distribution. C'est vraiment la chose la plus technique à voir et à maîtriser. Vous pouvez avoir un produit exceptionnel, s'il est mal distribué, bah vous allez crever, parce que le plus dur, c'est de faire en sorte que le produit parte du producteur et arrive au client final. Alors ça paraît con, mais c'est infiniment plus dur que ce que vous pouvez vous imaginer. Et moi qui suis dans les coulisses, j'ai même des potes des fois qui travaillent dans des boîtes, dans des énormes distributeurs et tout. Ils m'expliquent comment ça fonctionne. Même moi qui travaille dedans, j'arrive même pas à comprendre comment ça se fait qu'il y ait autant de couches d'acteurs qui prennent leur marge à chaque étape. Enfin, c'est un bordel, vous n'imaginez pas la violence du truc. Parce qu'en fait, tout simplement, la distribution, bah, c'est ultra violent. La logistique, c'est abominable à mettre en place. Donc, les distributeurs, bah, la grande distribution, Ils ont un rôle important à... Forcément, ils influencent beaucoup, puisque bah, quasiment tous les Français, je pense que quasiment 100% des Français vont dans des enseignes de grande distribution. Alors, les grandes distributions... Putain, je bégaye. La grande distribution, au début, bah, elle faisait beaucoup d'alcool d'industriel, justement, mais elle varie vachement. Il y a énormément d'Intermarché, de Leclerc, de Super U qui se spécialisent, qui ouvrent des coins cave, pas juste un rayon alcool, mais il y a un coin cave avec maintenant des cavistes qui conseillent. J'ai même vu des sommeliers qui travaillent dans des grands restaurants qui sont devenus cavistes chez Intermarché ou chez Leclerc. Et ils ont des allocations de fou furieux. Ils ont des bouteilles de vin, des châteaux Yquem, des allocations que même des grands restaurants n'arrivent pas à avoir, des bouteilles à 1000 balles. Enfin, c'est pas qu'une question de prix, mais bon, au moins ça vous donne une idée. Moi, j'ai vu des bouteilles de whisky à 4000 balles à Intermarché. Voilà. C'est juste qu'ils font des tests un petit peu partout, donc on s'en rend pas tous compte, mais ils testent beaucoup. Donc les grandes surfaces, si ces tests sont concluants et qu'ils continuent d'appuyer là-dessus, vont faire très très mal aux cavistes. Surtout qu'ils ne sont pas forcément trop chiants. En tout cas, moi, je l'ai pu le voir à mon échelle et j'ai confirmation d'autres gens dans le milieu qui sont pas trop chiants sur la négo des prix comme on pourrait croire. Alors, à mon avis, ils sont très chiants sur la bouffe, d'après ce que j'ai compris, hein, puisque si c'est aussi violent pour les agriculteurs et tout, c'est aussi parce que bah, le vrai nerf de la guerre, ça ne doit pas forcément être l'alcool. Mais ils sont pas si chiants que ça sur la négo. Ils commencent à avoir de plus en plus de références différentes. Donc, bah, ils influencent vraiment le marché, puisque s'ils deviennent aussi bons que certains cavistes, voire meilleurs, puisqu'ils auront des bons conseillers, plus de références, dont des références pointues, et qu'en plus les clients y passent tous, puisqu'ils vont faire leurs courses là-bas, donc ils achèteront leurs bouteilles en même temps, bah, ça a commencé à devenir très dur pour certains. Donc ceux qui survivront, ce seront les cavistes très pointus, qui ont une clientèle autour d'eux ou qui sont très connus pour certaines spécialités. Enfin, des cavistes pointus qui ont de l'expérience. Les chaînes de caves, genre Intercave, VNB, etc., pourront persister aussi. Mais la grande distribution, à mon avis, commence à vouloir s'attaquer à ce milieu-là. Donc leur poids dans le marché des spiritueux en France est déjà très costaud, surtout dans le poids des ventes pour les industriels, mais j'ai tendance à croire que ça deviendra de plus en plus imposant, hein. Il me semble que là, à l'heure actuelle, 70% des ventes de spiritueux, c'est fait en grande surface, il me semble, hein. Et après, la deuxième, c'est Internet. Donc les cavistes, ça représente quasiment rien. Il faut déjà le savoir. Donc si en plus ils commencent à prendre du premium et du super premium, ils vont passer à 90% et les cavistes, ça n'existera quasiment plus. Donc c'est quand même un bouleversement qu'il faut voir. Hein. Les grandes surfaces ont tué les boucheries, enfin les commerces de centre-ville, boucheries, boulangeries, poissonniers, fromagers. Bah, ça me semble assez logique que maintenant ils s'attaquent aux cavistes. Je ne suis pas là pour vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien, encore une fois, hein, moi je réponds à la question et je donne mon point de vue sur ce que je vois et ce que je comprends de l'évolution du marché. Il y a une réalité, les gens ils vont acheter leurs trucs en grande surface, bah, à part dire aux gens de faire vivre autour de chez eux, les petits commerces, bah, je vois pas ce que vous pouvez faire. Hein, la grande surface, ils essayent de capter toujours de plus en plus de clients, et c'est leur boulot et ils ont l'air de bien le faire puisque ça marche pour eux. Donc voilà. Et puis le caviste, il se doit aussi d'avoir une sélection qu'on ne peut pas retrouver en grande surface, qu'on ne peut pas retrouver chez un autre caviste. Il se doit d'avoir quelque chose de très pointu et on vient parce qu'on sait que chez lui, on va trouver des trucs incroyables. C'est aussi un vrai métier, il faut être commerçant. Donc c'est assez dur. Il y a plein de gens qui se lancent en tant que caviste parce qu'ils aiment bien le vin, mais ils ne savent pas faire du commerce, ils n'ont pas forcément un grand réseau pour avoir un panel intéressant, et en fait, ils se fournissent au même grand fournisseur que tous les autres, et ils se retrouvent à avoir la même cave que tout le monde. Et dans ce cas-là, bah, c'est logique qu'ils crèvent au bout de quelques années, puisque bah, où est l'originalité? Si je vais en grande surface et que je peux acheter exactement les mêmes bouteilles que chez mon caviste, à part pour faire vivre le caviste, ce qui est un point important, hein, je vous l'accorde, mais moi je vous le dis, le caviste, enfin, dans ce cas-là, il se fournit au même fournisseur que la grande surface, en fait. Donc vous faites vivre le fournisseur qui est au-dessus, hein, ça change rien. Hein. Donc voilà. Après, les industriels, bah, à mon avis, est un peu plus mitigé, parce que je considère que je ne fais pas le même métier qu'eux. Eux, leur but, c'est d'envoyer des volumes stratosphériques et de gagner quelques centimes par bouteille. puisqu'ils font, en fait, ils font une autre guerre que moi. Moi, je fais des produits qui sont plus premium et je gagne beaucoup plus de marge qu'eux par bouteille, parce que sinon, je ne pourrais pas vivre, tout simplement. Donc, eux, en fait, ils se font une guerre entre industriels sur les produits bas de gamme et nous, on se fait une concurrence sur les produits premium de meilleure qualité. Donc, on mène pas le même combat. Si vous voulez, ils nous font chier parce que sur les quand les restaurateurs font des gin toniques, bah, ils achètent des gins d'industriels parce que ils mélangent avec le tonique et le client final, qui est potentiellement vous, attablé à la table du restaurant, il s'en tape que ce soit un Gibson ou un gin artisanal. Bah, je vois pas pourquoi ils se feraient chier à mettre 5 ou 6 euros de plus et le client final s'en tape. Voilà. Donc, on mène pas la même guerre. Ils peuvent nous prendre ou nous bloquer sur des restaurants, sur des bars, parce qu'ils auront des meilleurs prix. Mais si vous trouvez, il y a suffisamment, disons, de clients pour que tout le monde puisse avoir sa part. Donc, je m'inquiète un peu moins de l'influence des industriels, en tout cas pour le moment, parce que je considère que leur vraie guerre, c'est la grande surface et c'est être 3 centimes moins cher que leurs concurrents, quoi. Ou être plus en avant, enfin bref, je sais même pas ce qu'ils font, j'imagine même pas la violence de leur combat à eux, ça doit être terrible. Alors, dernière question, si vous aviez trois recommandations à formuler pour la filière, lesquelles seraient-elles? Alors ça, je me souviens, il me l'avait posé, je l'avais mal préparé parce que j'ai pas forcément fait trois revendications, mais enfin, moi je considère que en gros En ce moment, le vent tourne au réenracinement, comme j'en parlais dans mes précédents podcasts. Je pense que les gens ont besoin de retour aux traditions, de retour à des choses qui ont de l'histoire, qui ont de la profondeur, qui ont du sens. Donc je pense que les marques qui joueront à fond la carte de l'enracinement et du fait d'être ancrées dans l'histoire des Français, par exemple ce que fait quand même assez bien Ricard, hein. Quand vous pensez à Ricard, bah vous pensez au sud, vous pensez à la pétanque, vous pensez aux cigales, vous pensez à vos vacances d'été, c'est rentré dans vos souvenirs. Voilà, Ricard, ça fait partie de la France, en fait. Donc, moi, je pense qu'il faut jouer à fond ce côté-là. Je vois beaucoup de marques qui tentent on en parlera dans un futur podcast, et j'en ai parlé en story, qui tentent la carte street, rap, je sais pas quoi. Je trouve ça débile, ça a rien à voir avec leur boulot. Ça marche aux États-Unis, mais en fait, ici, on n'est pas les États-Unis. Donc, à mon avis, il y en a beaucoup, surtout sur le premium, qui devraient jouer la carte du réenracinement, et pas seulement la jouer, hein, qui devraient le vivre, l'expérimenter. Le revendiquer, revendiquer la terre, revendiquer la paysannerie, le cognac, s'ils veulent se réimplanter en France et faire plus de 2% et passer à 5, et bah, ils devraient jouer sur le fait que bah, avant tout, ce sont des vignerons, ce sont des paysans. Ils ont des centaines et des centaines d'années d'histoire dans des départements qui font vivre entièrement. Ils ont une véritable identité. Pour certains, ils ont 5, 6, 7 générations derrière eux. Plus de 300 ans d'histoire, enfin c'est quand même, il y a quand même de quoi parler, donner envie d'aller les voir. Et après, bah, il faut faire goûter aux Français, hein, c'est important, parce que plus on voit quelque chose, plus on le goûte, plus on aura envie de l'acheter, c'est logique, donc il faut faire l'effort de je sais pas moi, je sais pas comment ils pourraient faire, hein, ils payent des gros cerveaux, bac plus 5 marketing pour ça, mais il faut faire expérimenter aux Français. Je sais pas, peut-être développer tout un coin cognac au salon de l'agriculture ou des choses comme ça. Et il faut aussi militer pour que les Français puissent s'offrir des bouteilles de qualité, ou du moins pour l'instant en aient envie, et ensuite puissent se les offrir. Il faut que les Français gagnent plus d'argent. Il faut que le travail paye pour que les Français puissent acheter des meilleures bouteilles, et puissent acheter du coup des bouteilles de producteurs français, et pas de la merde industrielle, genre Captain Morgan, Gibson, Poliakoff, et ces merdes-là. Voilà. Donc, si on veut que les Français achètent des produits de la terre, de la paysannerie, de l'enracinement historique, etc., il faut qu'ils gagnent de l'oseille. Et après, il faut aussi qu'ils aient envie de mettre cette oseille. Parce qu'il y en a, ils achètent de la merde et au lieu d'acheter deux bouses, bah, tu pourrais acheter une bonne bouteille. Et tu la boirais autrement, tu ferais pas du binge drinking, comme disent les Anglais, à la boire comme un trou. Et tu la dégusterais, tu essaierais de comprendre ce que tu bois, l'histoire de ce que tu bois, l'histoire de la personne qui l'a fabriqué, parce que c'est des bouteilles de temps long. Moi, j'ai vendu un Maquisard cognac 30 ans, j'ai aussi vendu un Calvados 33 ans. C'est-à-dire que ces bouteilles, elles sont plus vieilles que moi. Le mec qui les a mis en barrique, il les a mis en barrique à un moment où j'étais pas né. En fait, il y a des c'est pour ça que je dis que je joue pas le même jeu que les industriels. Les industriels, eux, leur but, c'est d'envoyer du volume. Moi, je ne vends pas spécialement que de l'alcool, je vends un morceau d'histoire. Vous buvez un truc qui a 33 ans. Vous imaginez? Enfin, et je le vendais 125 euros. Bon, là, il en reste que 4. Je le vendais 125 euros, le Calvados 33 ans. Quand vous achetez une bouteille chez un industriel, vous payez 20-25 balles. Bah, dès que vous en avez acheté 4, vous avez bu la même chose qu'un truc qui a 33 ans. Voilà, donc. Il faut aussi développer la passion et l'envie de découvrir cet aspect de la paysannerie, de l'agriculture française, que sont les spiritueux. Je pense que c'est une carte qu'il faut absolument jouer et qu'il faut développer. Et pour ça, il faut développer ce qu'on appelle le spiritourisme, donc le fait que ça soit connu, qu'on puisse venir visiter des distilleries, parce que quand on est dans une appellation, bah, cognac, bah, toutes les distilleries de cognac, elles sont au même endroit. Parce qu'elles sont dans la zone de l'appellation. Donc vous pouvez en visiter plein d'un coup. Et en apprendre tout de suite, en quelques jours, 2, 3 jours, énormément. Et vous ressortirez, vous connaîtrez par cœur le cognac et vous aurez envie d'en boire. Vous aurez envie de tester un cognac Grande Champagne, un cognac Petite Champagne, un cognac Borderie. Voilà, vous aurez envie de tester des vieux millésimes, des jeunes, le bio, le pas bio. Enfin, vous aurez envie de tester plein de trucs. Et là, vous vous ferez un palais, vous ferez une collection. Et vous boirez ensuite que de la qualité. Puisque dès que vous boirez dès que vous irez acheter de la merde, et vous le ressentirez tout de suite. Donc, pour moi, c'est ça qu'il faut développer. C'est le côté réenracinement, le spiritourisme, faire goûter aux Français, parler de soi, parler de l'histoire, ouvrir ses portes, ouvrir ses archives. Et c'est ça qui donnera envie au moins, pas forcément à tous les Français, hein, faut pas rêver, hein, mais à une part un peu plus importante de goûter des produits de qualité. Parce que c'est notre force, hein, la France, hein. Notre force, c'est notre terroir, c'est notre histoire, c'est nos productions. C'est pour ça que les autres pays, malgré tout, ils continuent de nous acheter des quantités astronomiques. Les Américains, ils pourraient en faire des tonnes d'alcool de bonne qualité. Mais c'est pourquoi on se ferait chier. On va acheter aux Françaises, c'est quand même plus pratique. Et puis ils le font bien depuis des centaines d'années, donc ils savent le faire. Voilà. Bon, c'est un peu tout ce que j'avais à dire, du coup, cette dernière question. Je pense que c'est un bon mot pour la fin. Donc, petit rappel, envoyez-moi un DM si vous voulez participer à l'événement sur la barge pour la fête des Pères. La barge à Issy-les-Moulineaux. Et la barge où il y a les chais, un chai de vieillissement sur l'eau et les fûts dans la cale. Ce sera une soirée rigolote, on pourra se rencontrer, il y aura pas mal de dégustes et tout. Et sinon, bah, si vous voulez vous acheter une belle bouteille ou acheter une bouteille pour la fête des pères, les maquisards qui sortent fin mai ou les bouteilles qui sont déjà en vente sur demichelot.com. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!